12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Ce sont deux projets photographiques de taille radicalement opposée, mais qui ont le même objectif, documenter, raconter la France des années 2020 à 2023. La première exposition, au Bal, à Paris, dans le 18e, est signée de la photographe Marine Peixoto. Elle a fréquenté durant 3 années un terrain municipal de streetwork entre pompe, traction et sculpture du corps. La seconde à la BNF est le résultat d'une commande publique passée par le ministère de la Culture auprès de 200 photographes et photojournalistes pour établir un panorama de la France après la crise Covid.
Et on en parle avec vous, Stéphane Coréard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique et commissaire d'exposition, directeur artistique de la galerie Love & Co. à Paris. Et on en parle avec vous, Joseph Ghosn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Et nous débutons ce débat critique avec l'exposition intitulée Bercy Street Workout, photographie 2020-2023 par Marine Peixoto.
Bonjour à tous, auditrices, auditeurs, amis. Voici votre culture physique, voici d'abord les foulées. La première partie donc de votre mise en train. Vous courez sur la pointe des pieds, souple et décontracté. Laissez bien flotter les bras et continuez en levant les genoux de plus en plus haut. Levez bien le genou droit, le gauche droit, le gauche droit, le gauche droite et le gauche. Et voilà, c'est fini pour la première partie de la mise en train.
Eh oui, on a tous besoin d'un bon réveil musculaire, comme nous y incite cette archive de 1953. Plus de 70 ans plus tard, ceux et celles qui se retrouvent sur ce terrain municipal du 12e arrondissement de Paris, dans le quartier de Bercy, ont un tout autre niveau. Ce sont des fans de sport et de street workout, une pratique qui se base sur le conditionnement du corps par la musculation avec l'utilisation de mouvements gymnastiques, c'est vrai, mais aussi du poids du corps. Alors s'il y a quelques machines fixées au sol, les nombreux sportifs que suit la photographe Marine Peixoto sont aussi très créatifs. Et ils utilisent parfois du mobilier urbain pour augmenter la difficulté de l'exercice. Et parmi ces sportifs, il y a donc Mehdi, un des animateurs en quelque sorte de ce lieu et de ce groupe, qui lui propose en mai 2020 à Marine Peixoto de venir photographier. Un travail de terrain sur ce terrain. Donc Marine Peixoto veut contribuer elle aussi à cet effort collectif de cette musculation avec sa pratique, celle de la photographie. Et elle s'adonne donc à des prises de vue quotidiennes et sur le long terme. Se contraindre tous les jours avec obstination à des efforts que l'on s'impose, explique-t-elle, relève autant de l'absurde que de l'intégrité envers soi-même. Pendant 3 années, Marine Peixoto épuise ce lieu et ce regard qu'elle porte en photographant des portraits, des corps qui s'assèchent, qui se musclent, les alentours, le quartier. Aussi, Stéphane Coréard, qu'avez-vous pensé de cette démarche d'abord et de cette exposition, donc de ces 200 tirages qui en résultent?
Mais vous avez dit beaucoup de choses, mon cher Nicolas, on va vous laisser toute la place.
Mais non, allez-y.
Ou presque. Effectivement, c'est une exposition qui est très liée à la deuxième dont on va parler, celle de la BNF, mais qu'on est en quelque sorte un miroir ou un inverse. D'abord, effectivement, il y a 200 tirages, comme vous l'avez dit, de la même photographe, Marine Peixoto, qui est une artiste, contrairement aux photoreporters dont on va parler après. Donc même si, comme vous le dites, il y a un rapport sur l'idée de tendre un miroir à la société française, c'est pas le même miroir, un miroir d'artiste. Il y a une unité par ailleurs de lieu et de protagoniste. Ce qui est assez curieux, c'est que c'est un huis clos, mais en extérieur, puisque c'est à la fois un lieu déterminé, qui est ce terrain de street workout, mais en même temps en plein air. Et effectivement, elle qui, toujours dans son travail, explore des réalités qu'elle connaît intimement. Là, ça n'était pas le cas, puisque c'est une demande qui est venue par Internet. Ce mouvement même du street workout est très lié à Internet, puisqu'il est né, je crois, à New York, et que ces jeunes qui se sont mis à faire cette musculation gymnastique dans la rue, très vite, ont mis des vidéos sur leur chaîne YouTube, qui ont été vues par des millions de gens, et qui c'est devenu une pratique à la fois sportive et urbaine à part entière. Et effectivement, donc Mehdi, je crois, a contacté la photographe sur Facebook ou sur Instagram, où d'ailleurs, j'incite nos auditeurs à suivre le compte de Bercy Street Workout, qui est compte déjà 1895 followers. On va voir si ma recommandation est suivie des faits. Et donc, c'est Mehdi qui a proposé donc sur Internet à Marine Peixoto de devenir la photographe attitrée de cette bande de jeunes garçons. Et elle dit « J'ai parfois trébuché sur les contradictions de cette démarche interminable. Ce sont ces Mais pour moi, ça c'est ce qu'elle dit elle, mais pour moi justement c'est ces trébuchements qui rendent l'exposition passionnante. Parce que quand on arrive, on est saisi par ce flot d'images effectivement en noir et blanc, qui est à peu près de format A4, qui a un encadrement à la fois très simple mais très efficace, et qui, on le perçoit tout de suite, il y a une logique interne à cette espèce de journal intime. On voit d'abord assez vite que l'accrochage est chronologique, puisque il y a des portraits de groupe façon un peu photo de classe, où il y a des logos assez marrants et la date sur la photo. Et quand on regarde notamment ces photographies-là qui bornent comme ça, qui scandent l'accrochage, on voit qu'il est chronologique. Mais en même temps, parfois, ça s'interrompt, il y a une logique à ce moment-là thématique, et on va voir toute une série, par exemple, de portraits de face, ou alors de poteaux, ou alors effectivement d'éléments de mobilier urbain qui servent de support à la gymnastique. Et très vite, en fait, l'exposition, c'est comme s'il y avait un virus qui venait interrompre et modifier cette logique interne de l'accrochage qu'on sent très forte, parce qu'il y a une, deux, trois ou quatre lignes, qu'il y a des arrêts, il y a des vides. Donc c'est une logique qui est effectivement illogique d'une certaine manière, et on voit très vite que c'est la vie elle-même en fait qui fait irruption dans ce flot d'images, et qui du coup s'autorise une immense liberté. Et ce qui était au départ ce qu'on pouvait prendre pour un carcan devient une espèce de souffle vital énorme.
Joseph Ghosn, qu'avez-vous vous aussi ressenti en découvrant ce travail-là? Est-ce que vous avez eu la même approche que Stéphane Correa?
Alors à peu près la même chose, effectivement, sur ce sentiment de vie. Moi, j'ai vu d'abord des racines qui viennent, à mon sens, de deux ou trois endroits un peu historiques comme ça. Déjà, on pense immédiatement à cette pratique aussi de la musculation, du travail sur le corps qui vient de Californie. J'ai immédiatement pensé à Muscle Beach, ou en tout cas ce qu'on voit à Venice Beach, en Californie, à Los Angeles, sur les plages, avec ces groupes qui travaillent ça. Donc c'est assez étonnant de voir que ça existe aussi à Paris, dans un environnement beaucoup plus urbain, beaucoup plus froid et dur. Ça c'est une chose. J'ai ensuite pensé aussi, peut-être même avant ça, aux images que l'on connaît, qui ont pas mal proliféré de la culture street et hip-hop, notamment en France du début des années 80, c'est-à-dire une culture très ancrée dans l'urbain, dans des terrains, quasiment des terrains vagues, etc. On est assez proche de ça. J'ai aussi pensé à un photographe comme Harry Markopoulos, qui a beaucoup documenté, c'est un photographe américain, new-yorkais, qui a beaucoup documenté le skate, et qui a beaucoup suivi au quotidien des skateurs avec lesquels dont il était proche. Donc il y a pas mal de racines pour cette exposition et pour ce travail-là. Ça n'enlève rien à l'originalité, à la force même du travail. Déjà, quand on parcourt l'exposition, avant même de se rendre compte effectivement de tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire de la chronologie et aussi de ce côté effectivement un peu virus, en tout cas avec ces interruptions, il y a quelque chose d'extrêmement plaisant dans l'exposition, quelque chose qui vous accroche immédiatement, à la fois dans les portraits. Le travail de portraitiste est très précis et très très beau, et elle arrive à saisir ces visages-là. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant, d'assez humoristique finalement dans certains corps, dans la façon de saisir certaines attitudes. Il y a aussi, à mon sens, quelque chose d'extrêmement graphique. Elle parvient dans ce lieu à restituer, notamment dans ces séries avec les barres, les corps, les détails des corps, quelques bouts de corps dans des barres, quelque chose d'extrêmement graphique. Qui moi me touche beaucoup, et fait qu'on suit son regard, et on voit qu'elle a un regard assez particulier. C'est un regard aussi qui, je trouve, transporte le territoire qu'elle capte ailleurs et parvient à le restituer dans un autre territoire, qui est cette salle du bal, que moi c'est un endroit que j'aime beaucoup, mais qui est un endroit assez simple finalement, qui peut être aussi assez froid.
C'est un lieu d'exposition indépendant qui est donc place de Clichy dans le 18e à Paris, effectivement, où il y a une grande salle, notamment la deuxième salle au sous-sol, qui est une très très grande salle où les photographies sont accrochées sur les quatre murs de cette grande salle. Tout à l'heure, vous avez dit, Stéphane Correard, on n'est pas dans le photojournalisme, on est dans un travail d'artiste. Alors justement, quelle est la différence? Parce qu'on se dit, voilà, un documentariste aurait fait la même chose, venir tous les jours sur cet endroit, rencontrer les mêmes personnes et les voir évoluer durant ces trois années. À quel moment est-ce qu'on a le regard d'une artiste photographe?
Eh ben, en fait, c'est très simple, et là aussi, ça va fortement contraster avec l'exposition dont on va parler ensuite, parce que c'est dans la matière même de l'œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, on est effectivement dans ces tirages photos qui, avec des très beaux noirs, qui ne sont pas pour autant charbonneux, un très beau piqué, effectivement.
C'est de l'argentique, hein.
Dans les portraits, tout à fait. Et puis ensuite, c'est ça, c'est déjà dans la première salle, en fait, ces tirages lisses laissent la place à des découpages collages, où elle a découpé des silhouettes qu'elle a d'un coup fourrées un peu comme ça, on a l'impression comme qu'ils se battent un peu comme ça dans l'image, mais il y a vraiment une matière. Ensuite, quand on descend, il y a quatre photographies couleurs à un moment donné qui viennent interrompre le flot du noir et blanc. Puis ensuite, il y a neuf gouaches qui se substituent aux photographies. Donc c'est là aussi je parle de virus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette dominante de photographie noir et blanc argentique, mais qui se réinvente sans arrêt. Et de la même manière, c'est dans les cadrages et dans les sujets et dans les compositions elles-mêmes, puisque, comme je le disais, il y a ce huis clos en extérieur, mais parfois, on rentre vraiment à l'intérieur. Donc là, c'est le réfectoire, par exemple, notamment. Et c'est ce qu'on voit, les gouaches sont des vues de réfectoire, mais parfois c'est l'extérieur au sens large de Bercy. On voit le ministère des Finances, on voit la gare de bus. Donc il y a cette forme de fluidité et de liberté qui est très différente de celle qu'on pourrait trouver dans un reportage de presse, par exemple.
Et puis il y a aussi l'extérieur, effectivement, vous l'avez dit, on est dans ce lieu très urbain, ce terrain de sport très urbain qui est accolé au parc de Bercy. Et donc on a, par exemple, moi ça m'a beaucoup marqué, des photos où on a le gros bras musclé d'un de ces jeunes hommes, et juste à côté, on a la lumière du soleil sur le tronc d'un arbre qui fait quasiment la même forme de ce bras. C'est très joli aussi.
Oui, je crois que tout son art réside dans la façon de séquencer toute cette exposition. Il y a une vraie séquence. Effectivement, la puissance des photos est là, mais il y a un séquençage, il y a une façon d'éditer tout ça qui fait qu'on est par moments interrompu ou perturbé. Et qu'on passe de visage à des paysages. Et ces paysages-là, on n'a pas forcément l'habitude de les voir comme ça. On comprend qu'on est dans une zone qui n'est pas extrêmement délimitée, qui n'est pas la plus accueillante, mais elle arrive à en faire quelque chose dans lequel on est plongé. Et il y a comme ça un travail sur le territoire. Et c'est un travail qui est d'autant plus fort, je crois, qu'il fait écho à un autre territoire qu'il explore, qui est le territoire du corps.
Et il y a
les visages, on commence par les visages, mais il y a ces moments où on ne voit que des torses nus, extrêmement musclés, extrêmement façonnés, et on comprend aussi que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire la façon dont ces sportifs, en tout cas ces anonymes, en tout cas, s'emparent de leur corps et en font un territoire qui, en quelque sorte, fait écho à la dureté du paysage dans lequel ils travaillent. Donc il y a quelque chose comme ça qui est assez passionnant et qui provoque aussi pas mal d'humour, en tout cas d'interrogation de la part du spectateur. Moi, j'entendais des gens autour de moi dire « Ah tiens, tous ces torses-là, c'est marrant, on ne peut pas s'empêcher de les comparer à ce qu'on connaît. » Et de les comparer entre eux aussi. Donc il y a aussi une forme de cette exposition, elle vous regarde aussi pas mal. Et elle interroge aussi pas mal quand vous êtes un homme aussi, ça vous interroge aussi sur qu'est-ce que c'est que votre masculinité, qu'est-ce que c'est que le corps que vous avez, surtout aujourd'hui.
Alors justement, quel est son regard sur cette masculinité? Parce qu'on est très loin, pour ceux qui n'ont pas vu ces photos, on est très loin de la salle de sport, avec des corps en sueur, qui seraient dans l'effort. On n'est pas véritablement dans cela, Stéphane Correa. Une façon de regarder aussi la masculinité.
Oui, absolument. Mais ce que je trouve intéressant, et on feuilletait le livre qui est remarquable, qui accompagne l'exposition et dans lequel il y a un tout petit extrait des photos. Le livre est un projet très différent de celui de l'exposition. Par ailleurs, cette artiste, elle est, je crois, fan de fanzine et elle édite très très bien aussi les objets, justement. Donc l'exposition et le livre et le fanzine qui est proposé ne sont pas la même chose. Mais par exemple, il y a neuf pleines pages qui sont effectivement ces neuf torse magnifique, musculeux, sculpturaux. Et ça, c'est très effectivement intéressant qu'il soit à la fois, qu'il prenne neuf pages de ce livre qui est relativement court, et qu'il soit aussi détaché dans la série photographique, parce que je pense que c'est ce qui m'a conduit à penser que la force justement de cette exposition, c'est sa puissance métaphorique, analogique, entre effectivement ses corps, sa pratique de photographe et l'art lui-même, en fait, parce qu'il y a des liens qui sont extrêmement forts et qui débordent de cette exposition. C'est l'art, par exemple, comme la perpétuation d'un esprit d'adolescence, ce qu'on appelait dans les années 68 le soulèvement de la jeunesse. C'est comment rester un adolescent toute sa vie aussi, être un artiste. C'est l'art comme un entraînement quotidien, comme une pratique. C'est l'art aussi comme une manière de passer le temps, parce que ces jeunes se regroupent là, ils viennent tous les jours, parfois il fait mauvais, ils peuvent même pas pratiquer. C'est l'art comme un outil de transformation, donc transformation du corps, transformation de la matière, une forme d'alchimie, une manière de se saisir de ce qui est autour de soi, une manière de dialoguer avec les autres, une manière de renvoyer au monde un miroir, et aussi, finalement, pour revenir à ses torses, simplement une quête de la beauté.
Oui.
Très sexy, cette gymnastique.
Alex Soto, Bercy Street Workout, photographie 2020-2023. Je précise que Marine Peixoto a reçu le prix Le Bal de la jeune création. On peut voir son exposition jusqu'au 19 mai au Bal. C'est près de la place de Clichy à Paris. Et on en a parlé, le catalogue de l'exposition est disponible aux éditions Roma Le Bal.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de l'exposition à la BNF, La France sous leurs yeux, 200 regards de photographes sur les années 2020. C'est jusqu'au 23 juin prochain.
C'est ce qu'on préfère, lève ton verre à la France. À la 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 France. À la 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 à la France. À la 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 France. Wow.
Cette chanson d'Orelsan qui résume en quelque sorte la commande passée par le ministère de la Culture à ses 200 photographes. La France sous leurs yeux. 200 regards de photographes sur les années 2020. Exposition donc à la BNF qui est le résultat de cette commande publique la plus importante en Europe avec un budget de plus de 5 millions d'euros. Son objectif donc dresser un panorama de notre pays au sortir d'une crise, vous me voyez venir, celle du Covid. Autant de lauréats du prix que de regards sur une France ouverte sur le monde et en même temps tenté par le repli. Il faut dire que la variété des thèmes abordés donne le tournis. Pandémie, écologie, pollution, éducation, religion, précarité. Bref, si cette radioscopie compte au final 2000 tirages inédits, seulement 500 d'entre eux sont accrochés à la BNF sur le site François Mitterrand dans un parcours qui se déploie en 4 temps. Les 3 premiers reprennent au pluriel la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. La 4e ouvre vers de nouveaux défis de la société française qu'ils ont appelé les potentialités. Ce n'est pas une exposition sur le Covid, il y a peu de virus sur les tirages, mais sur les conséquences de cette crise, sur ces populations abîmées, un état des lieux des modes de vie aussi, de la société qui évolue. Joseph Ghosn, que retenez-vous de cette longue visite de cette exposition ? J'imagine que vous y avez passé du temps.
Elle était assez longue, oui. J'y allais avec en tête cette autre commande publique qui était plutôt dans l'art contemporain, qui s'appelle Monde Nouveau, que j'avais plutôt apprécié, parce qu'elle proposait à des artistes de travailler justement sur le territoire, sur la France, etc. Donc je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je me suis retrouvé face à une exposition que j'ai trouvée très très inégale, parce que extrêmement fouillie, plutôt que fouillée, avec beaucoup beaucoup de propositions, et un sens de la séquence et l'editing qui ne m'est pas apparu de façon extrêmement claire. Donc j'étais très vite mise à distance parce que je ne comprenais pas exactement ce dont il s'agissait, je ne voyais pas tout à fait ce dont on parlait. J'y allais vraiment avec de bonnes intentions et en me disant c'est intéressant, ça va être intéressant de voir la façon dont la France est regardée aujourd'hui. Or je n'ai pas trouvé vraiment ça. Et peut-être qu'au fond, je me suis dit, on n'arrive pas forcément à regarder le pays aujourd'hui.
Alors il y a, pour expliquer, à peu près 2 photos, 2 clichés qui ont été sélectionnés par photographe, photojournaliste, Stéphane Coréard. Et effectivement, la démarche à chaque fois, c'est de rentrer dans ces 2 clichés et de le répéter jusqu'à la fin de l'exposition.
Oui, alors justement, par rapport à l'exposition de Marine Peixoto, ici, ça manque carrément de vie. Il manque peut-être un virus ou il manque même simplement un commissariat au sens d'un angle de vue. Comme le dit l'historienne Judith Reynorn dans le livre qui accompagne l'exposition, elle dit c'est un kaléidoscope qui, avec un nombre fini d'éléments, autorise un nombre infini de combinaisons selon l'angle de vue. Voilà, c'est ça qui manque, c'est l'angle de vue. En fait, il aurait été intéressant. D'ailleurs, même là aussi, en termes de rythme, hein, autant l'exposition précédente était presque comme un morceau de musique avec ses ruptures, ses orchestrations, autant là, c'est très plan-plan. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 photos par photographe, et puis on passe de l'un à l'autre, avec effectivement, vous l'avez dit, ces quatre chapitres qui sont tellement vagues et tellement vastes. J'ai cru au départ que c'était, vous voyez, d'ailleurs, une citation de Jean-Yann, Liberté, Égalité. Enfin, lui, c'était Liberté, Égalité, Choucroute, mais ça aurait pu être ça aussi. je crois. Ça se voulait un nouvel épisode après la mythique mission photographique de la Datar des années 80 que les plus âgés comme moi de nos auditeurs se rappellent, dont ils se rappellent avec émotion, parce qu'il y avait que 29 photographes. C'était un mélange à la fois de photo-reporters, des gens comme Depardon, mais aussi des gens comme Doisneau, des photographes humanistes, et puis des plasticiens comme Lewis Bowles. Et là, justement, ce qui manque, ce ne sont que des photojournalistes. En fait, il faut bien voir que c'est une commande publique qui était dans le registre de Z à la presse. Donc, en fait, l'exposition vient juste signaler que, ces tirages vont rejoindre les collections de la BNF. Donc, je crois que c'est pour ça qu'ils ont voulu faire l'exposition, parce que sinon, le livre, quelque part, rend beaucoup mieux compte de la commande que l'exposition. Il fait 500 pages, il y a des textes de personnalités très, très éclairantes ou en vogue, comme Pierre Aski, par exemple, mais on rentre, parce qu'il y a aussi beaucoup de photographies qui sont accompagnées de textes, donc effectivement, la visite est d'autant plus longue que beaucoup de photographes font aussi ce travail de journalisme écrit, voire parfois des sons, d'ailleurs, ça peut être le plus intéressant. Alors, pour rentrer effectivement un peu à l'intérieur de ces thèmes, moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que on est vraiment dans l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ce qu'on a appelé les premiers de cordée pendant le Covid, ces 100 grades dont notre président de la République disait qu'ils étaient les femmes et les hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Alors, est-ce que la photographie leur rend plus justice? Effectivement, il y a beaucoup d'aidants. Il y a des belles images, évidemment, hein, dans cet ensemble de 500, photos, par exemple. Justement, en fait, d'aidants, il y a dans la série À domicile d'Olivia Gay, je retiens, par exemple, une photo de Liliane, une auxiliaire de vie qui prend dans ses bras Henriette pendant sa toilette, et c'est une forme de maternité inversée, assez bouleversante en fait, d'un âge où on redevient fragile, vulnérable. Il y a beaucoup de thèmes effectivement qui eux-mêmes font kaléidoscope, par exemple vous l'avez dit un peu, mais l'immigration, la jeunesse, la famille, le genre, les habitats alternatifs, l'écologie, les corps différents. Il y a une série de Patrick Zwierk, par exemple, sur le corps comme territoire de revendication, la place des religions, mais même plutôt les croyances et les superstitions. Voilà. Mais en revanche, il y a aussi des manques, j'ai trouvé, parce que finalement, la politique, et en tant que telle, il y a juste, je crois, un photographe qui s'empare d'images de rassemblement de jeunes. Il n'y a qu'une personnalité politique, si on peut dire, c'est Marine Le Pen, qu'on voit. Le travail en tant que tel disparaît finalement, en tout cas, les lieux de production. Alors ça, c'est peut-être aussi un certain état du pays. Moi, ce que j'ai aussi regretté justement par rapport à Marine Peixoto, c'est que j'ai fait ce travail pour vous, Nicolas. J'ai sorti ma calculette et j'ai vu que la moyenne d'âge des photographes était de 50 ans, alors que celle des Français est de 42 ans. Et j'ai trouvé que cet ensemble, finalement, était assez vieux, que la nostalgie affleurait souvent, que la vieillesse était plus présente que la jeunesse. On est dans les EHPAD, dans la mémoire qui flanche. Ça peut donner parfois là aussi des belles séries. Il y a une série sur les Miss France, les reines de beauté sont aussi des femmes âgées, de Gilles Leimdorfer, qui est assez intéressant.
Alors on retrouve, et je vais vous donner la parole, Joseph Gomet, on retrouve évidemment des thématiques qui ont rythmé l'actualité juste après la crise Covid. Vous parliez de la jeunesse par exemple, jeunesse qui a été durement éprouvée pendant le Covid. Elle est dans la partie liberté, mais elle aurait pu être aussi dans la partie absence de liberté, hein, avec le confinement. Il y a eu ceux qui s'engagent, vous l'avez dit, la jeunesse qui s'engage contre le réchauffement climatique, ceux qui font la fête quand même. Il y en a aussi quelques-uns, ceux qui rêvent d'un avenir meilleur. Quelle aurait été peut-être, je ne sais pas moi, est-ce que d'ailleurs vous avez le même sentiment premièrement sur cette nostalgie, et est-ce qu'elle aurait été la meilleure façon de mettre à profit et en avant cette démarche?
La question de l'âge des photographes se pose. Je me suis posé en plein milieu de l'exposition en me disant, mais au fait, quel est ce regard, d'où vient ce regard? En même temps, on peut la régler assez vite, parce qu'il y a des œuvres que moi ce que j'ai préféré, par exemple, sont les photographies qu'on voit au tout début, qui sont en noir et blanc, de Marie Keogh sur des gamins qui font la fête et qui sortent la nuit pendant le Covid. Ça, je trouve ça très fort. Et il y a aussi, par exemple, deux photographies de Yann Morvan, qui n'est plus un gamin, loin de là, sur des fumeurs de crack. Donc on aurait pu arriver à trouver un équilibre entre les âges et à donner une version un peu plus cohérente, où on ne se serait même pas posé la question. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une tension entre la façon de présenter les choses, de photographie, où j'ai eu l'impression que certains photographes avaient cherché à être dans une foire d'art contemporain. On a une esthétique un peu comme celle-là, notamment au début, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est Paris Photo? Est-ce que c'est Art Basel? Où est-ce qu'on est exactement? Et en même temps, cette idée qu'on est quand même face à des photojournalistes. Donc on est face à des gens qui ont l'habitude de voir leur travail montré dans des contextes de magazines,
dans
de journaux,
des journaux dans et des magazines,
pages, ouais. Où il y a beaucoup d'autres choses autour. Donc il y a des contextes. Et là, il n'y a aucun contexte, en fait. Même s'il y a des textes, les textes sont souvent assez illisibles. Ils sont un peu trop longs. Ils sont pas très bien mis en scène. La façon de montrer les photos est pas non plus la plus agréable possible. Il y a beaucoup trop de choses. Donc c'est on arrive à choper des fragments, à prendre des fragments, mais l'ensemble laisse quand même très très distant parce qu'il y a cette tension qui n'est jamais jamais réglée. Et on la comprend d'autant plus qu'à la fin de l'exposition, il y a un petit mur avec beaucoup de pages de magazines. On aurait voulu que ce soit beaucoup plus présent et qu'on confronte tout ça à ce travail-là, qui est un travail de journaliste, mais qui n'est pas du tout un travail d'exposition.
Sur la forme, Stéphane Coréard, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a des portraits, il y a peu de groupes, enfin peu de photos de collectives, il y a des événements saisis sur l'instant, il y a des moments aussi un peu intimes. Voilà, il y a quand même une variété aussi sur la forme de pratique de la photographie.
Il y a une variété, mais justement, je regrette pas peu de paysages, contrairement à la mission photographique de la Datar, très peu d'expérimentation plastique. C'est peut-être normal parce qu'on a des photojournalistes, mais je trouve que ceux qui effectivement arrivent à percer au milieu de ce brouillard et en deux images de nous toucher au cœur méritent quand même qu'on les cite. Je voudrais en citer quelques-uns. Julie Bourges, par exemple, dans ce projet Les Eaux Fortes, qui est polysémique et sur les femmes qui exercent des métiers de la mer. Et c'est magnifique, on dirait des tableaux du Caravage pris sur les mers déchaînées. Stéphane Lavoué en deux photos qui s'appellent Allons enfants, les nouvelles recrues de l'armée française. Je trouve ces deux photos incroyables sur des élèves d'école militaire. Olivier Metzger, qui est mort juste à la fin de 2022, qui est représenté par deux images absolument magnifiques aux lumières de la ville, au moment où le monde bascule comme ça, de la réalité vacille dans l'ombre, je dirais. Et puis Jean-Michel André, qu'ils ont choisi fort justement pour l'affiche avec cet homme qui est en suspension à l'envers.
Un jeune acrobate qui fait une acrobatie sur un terril.
Voilà, il photographie en fait les Hauts-de-France comme une terre magique, miraculeuse, comme une espèce de nouveau western. Donc il y a quand même des choses magnifiques qu'il faut, vraiment des pépites qu'il faut trouver.
Si on y va, Joseph Ghosn, comment on y va ? Avec quel état d'esprit, avec quelle démarche ? Qu'est-ce qu'on va picorer comme ça ce
on
qui
picore.
Nous...
On picore. On picore et on cherche des choses. Moi par exemple, j'ai adoré Sandra Mel, que je ne connaissais pas du tout, sur l'amour et les cités, et où les photos se répondent. On y va vraiment en faisant son propre fil.
Et on peut effectivement aussi acheter ce catalogue qui est disponible aux éditions BNF, où il y a beaucoup de textes qui viennent évidemment aussi augmenter la réflexion sur cette commande. Stéphane,
oui, c'est 49€ quand même le livre, mais sinon tout est sur internet, donc cherchez commande photographique et vous aurez tout gratuitement.
Ça s'appelle La France sous leurs yeux, voilà pour le bon plan. 200 regards de photographes sur les années 2020, c'est jusqu'au 23 juin prochain sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Merci à tous les deux. Stéphane Coréard, vous êtes directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Joseph Ghosn, merci beaucoup. On peut vous lire dans Madame Figaro et on vous met bien sûr toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission, où vous retrouverez ce débat critique et tous les autres, tout comme sur l'application Radio France.